Bonjour, je m'appelle Eugénie Denarnaud et je suis doctorante en troisième année de thèse au laboratoire de recherche en paysage de l'école de paysage de Versailles, l'école nationale supérieure de paysage, co-encadrée donc, par le directeur de l'école, Vincent Pifto, et par Romain Sinel. C'est comme ça que j'ai pu intégrer aussi, enfin prendre contact avec ce groupe de recherche qui est très passionnant, d'autant plus que ma discipline, si tant est qu'on puisse la définir de cette manière-là, s'appelle science du paysage. En tout cas, je la qualifierais de discipline d'études de paysage. Et donc, le but premier de cette discipline est de porter une attention avec des approches extrêmement transversales, mais qui relèvent de l'ethnographie, de la géographie aussi, les histoires d'échelle dont vous parliez tout à l'heure m'ont touché, de la botanique notamment, qui sont vraiment les trois choses qui jalonnent mon travail doctoral. Je ne vais pas vous parler d'une plante en particulier, je vais vous parler de petits jardins, et ensuite ça va me permettre de zoomer sur des pratiques qui se transmettent et comment est-ce que ces jardins sont les lieux justement de transmission de ces pratiques et de quoi est-ce qu'elles relèvent. Mon terrain donc se situe à Tanger, dans l'expansion d'une ville qui est passée de 200 000 habitants en l'an 2000 à quasiment 2 millions d'habitants aujourd'hui. Et donc, à l'intérieur de ce bouleversement urbain, j'ai observé de manière empirique, c'est comme ça en fait qu'on passe les... Okay. Des petits jardins que j'ai appelés pour travailler de manière plastique, on va dire en recherche fondamentale et plastique aussi, à travers des outils que j'utilise, des jardins pirates. J'utilise cette métaphore parce qu'elle me permet de convoquer un éventail assez large de pratiques qui relèvent de l'alternative, de ce qui n'est pas planifié, de ce qui est dans l'action du faire, de ce qui se situe dans un temps présent ou en tout cas dans une temporalité éphémère. Et ces jardins, pour moi, affirmaient quelque chose de très puissant dans ce contexte d'urbanisation massif et qui échappait à la programmation urbaine qui était en train d'advenir. Donc là, vous avez une photo du premier jardin pirate que j'ai vu. J'en ai observé 16. À l'état actuel, et je suis en train donc d'avancer là-dessus. C'est une photo qui a été prise en 2008, et on observe donc que ces jardins sont petits, vivriers, urbains, vivriers et en même temps ornementaux, et ils sont constitués d'une palette végétale extrêmement riche, à la fois de choses qu'on mange, à la fois de choses qui servent pour des rituels, à la fois de choses qui servent juste pour être belles. Enfin, voilà, donc j'ai relevé un certain nombre d'usages des plantes qui étaient faites dans ces jardins. Là, vous avez le même jardin qui a été pris en 2014, avec donc un front bâti qui est arrivé, qui a gagné toute la prairie qu'il y avait derrière le jardin. Et on observe que ces jardins restent encore tant que le foncier n'est pas construit. Ils continuent d'exister, et quand le foncier se construit, ils disparaissent ailleurs. Pourquoi cette forme m'a intéressée ? C'est parce qu'elle renseigne en fait sur un certain nombre de pratiques qui s'y transmettent et qui s'y transforment, pratiques qui sont liées à une connaissance plus vaste de l'environnement et qui racontent une relation plus étendue et plus hétérogène des habitants avec le milieu ambiant, pourrais-je dire le paysage ou en tout cas l'environnement naturel, entre guillemets, qui constitue le pays dans lequel ils vivent. Ces jardins sont souvent cultivés par des gens, enfin, et les Tangérois eux-mêmes de souche, on va dire, et les Tangérois récemment arrivés dans la ville de Tanger, viennent de ce qui s'appelle le pays Jbala. Le pays Jbala donc, est constitué par c'est une confédération, mais qui, contrairement à d'autres confédérations marocaines, a une origine qui est extrêmement diverse et dont le foyer revendiqué des paysans Jbella est le sud de l'Andalousie, notamment. Donc c'est un peuple qui a migré et qui s'est retrouvé à devoir traverser le détroit de Gibraltar pour s'installer là Et voilà, donc c'est un peuple qui n'est pas berbérophone, mais arabophone. Donc les paysannes que vous pouvez voir au bord de la route sont ces paysannes et sont ces paysannes jbala, donc on vous reconnaît avec un certain type de vêtements, de chapeaux, etc. Et en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, dans cette photo, donc vous comprendrez que ce n'est pas évident de prendre en photo les gens. Donc du coup, là, je passais en voiture et ce qui se passe, c'est que le long des axes qui conduisent à Tanger, on observe en fait des femmes qui vendent un certain type de denrées, qui sont les mêmes denrées qu'on va retrouver dans les jardins pirates ou... Enfin, ou en tout cas qui s'en rapprochent. Les trois plantes sur lesquelles je voudrais zoomer et qui me ramènent donc à la fois à cette forme de jardin urbain et à la fois à cette culture paysanne jbala de manière plus large, c'est donc trois plantes qui sont considérées comme des plantes invasives ou des plantes problématiques chez nous et qui là-bas, ou des plantes exogènes, et qui là-bas en fait n'ont pas du tout cette acception. J'avais développé cette approche dans un séminaire où j'avais été invitée justement sur les plantes et les altérités qui avaient eu lieu lors de la première année de mise en œuvre en fait de ce projet, qui sont donc la plante jeu, la plante piquant et la plante soin. Donc voilà le type de paysage, on va dire, rural, paysannerie vernaculaire, extrêmement adaptée au lieu, en lien entre une géographie accidentée, collinéenne et la mer, qui est très proche, et donc des paysans qui ont un savoir transversal terre-mer, à la fois des connaissances de pêche, maritime, etc., et en même temps de savoirs paysans locaux. On s'aperçoit que du fait de cette géographie complexe et puis de l'histoire compliquée du nord du Maroc, mais je reviens pas là-dessus, on est dans un contexte où la ville s'étend sur des prairies et dans un environnement extrêmement riche et qui n'a pas été impacté par la Révolution verte, contrairement à d'autres zones du Maroc. Et donc on est sur un paysage à la fois qui est le plus irrigué, le plus arrosé par la pluie du pays, qui d'ailleurs rappelle un peu le Portugal à certains moments, très océanique et à la fois méditerranéen. Et donc on a un contexte général d'une grande richesse floristique et faunistique. Donc la plante pique, c'est la plante qui sert à constituer les barrières dans les paysages agricoles. Donc il y a toutes sortes de piques qui sont utilisées. On a notamment le genêt scorpion, aussi certains chardons, mais le cactus ficus opuntia indica ou cactus raquette ou figuier de Barbarie, qui s'appelle l'hindi en tangéroise, qui veut dire, ce qui renvoie à son origine américaine, enfin d'Amérique centrale, d'Inde, mais par déviation, on va dire. Enfin, donc pas d'Inde, mais qui en a gardé le nom dans le dialecte. Et elle s'appelle aussi, mais dans des dialectes plus du sud du Maroc, Aknari, qui veut dire des Canaries. Et donc, parce qu'en fait, elle a transité du continent américain au continent marocain en passant par les Canaries. Ce qui était intéressant, c'était de voir dans la photo du bas, là, que c'est à la fois des plantes qui vont servir, donc ce piquant, à fabriquer des systèmes de mise en défense contre la dent du bétail dans des contextes urbains, parce qu'il y a toujours autant de troupeaux dans les villes, et notamment à Tanger, et à la fois c'était utilisé de la même manière dans des contextes ruraux, comme on peut voir là, vraiment tout proche de Tanger, à une quinzaine de kilomètres, avec des andins de genêt scorpion, qui sont disposés comme ça de façon à repousser les animaux. On peut voir aussi des anciens résidus de barrières agricoles, de haies, et également une sorte de mur qui est complété avec un soubassement en pierre et au-dessus une finition, on va dire, anti-animaux. Voilà, la deuxième plante qui m'intéressait, c'était la plante jeu. Donc là, c'est l'Oxalis des Bermudes qui s'appelle Oxalis pescaprae, de son petit nom scientifique, et qui s'appelle Humaïda en arabe dialectal, enfin en tangérois. C'est une plante qui est... Donc Humaïda, ça renvoie à l'acidité de la plante, et ça renvoie également au nom de la petite oseille qui est utilisée aussi en aliments de soudure, en légumes feuilles, etc., dans les cueillettes qui sont pratiquées de façon très récurrente et revendiquée de la part des tangérois. L'oxalis, donc sur lequel on jette pas forcément un regard bienveillant dans certains cas, et dans la région de Tanger, une plante qui est utilisée à la fois, donc on peut voir là sur cette photo, c'était assez intéressant, En hiver, donc on a un champ de blé dur, et en fait en dessous des figuiers, donc qui ont perdu leurs feuilles parce que c'est l'hiver, on a des taches qui n'ont pas été sarclées en fait pour semer le blé dur, et donc du coup c'est des espaces qui poussent spontanément, et donc là qui forment en fait des taches rondes de la part de ce qui a été laissé par l'oxalis pascaprae, donc ça montre à quel point elle est présente et bien bien adaptée. Donc c'est une africaine du sud à l'origine, paraît-il, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vraiment retracer l'origine des plantes, c'est une vaste question. Et cette plante sert à la fois de succédané pour les enfants de aînés, donc ils se tachent les mains avec et puis ils reproduisent la cérémonie du mariage parce que ça tient très bien la couleur de la plante. Elle sert également à faire des grillés, vous pouvez faire des sortes de petits amandons pour pas l'apéritif, mais on va dire les petits moments de grignotage à table. C'est ce qui est fait lors de du cerclage des champs. Et on peut voir que ce phénomène de plan de jeu a intéressé même une artiste marocaine qui s'appelle Ito Barada, qui a fait une série de photos, dont la photo du petit garçon là, qui font en fait des couronnes de ces plantes-là. Enfin voilà, donc il y a une utilisation qui est notable. Et la troisième plante sur laquelle je voulais zoomer avec vous aujourd'hui et qui raconte aussi ce déplacement du regard entre une nature considérée comme envahissante qu'est-ce qu'on peut tirer en fait de ça et comment est-ce que dans d'autres contextes c'est pas du tout le cas. J'attire votre attention sur une plante qui s'appelle donc l'inule visqueuse ou Dietrichia viscosa. Qui s'appelle donc Tsarhal en arabe dialectal tangérois. Et cette plante-là, je l'appelle la plante trousse de secours. Et alors, comment je l'ai découverte? Bon, déjà, elle sent extrêmement fort, elle a une odeur très puissante. C'est une plante méditerranéenne, donc elle serait plutôt de là-bas. Mais ce n'est pas la question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle pousse à peu près partout dans les terrains qui ont été fréquemment récemment remués. Donc dans des terres qui sont ruderales, proches des habitations, dans les décombres, mais aussi au bord des chemins, aussi dans des maquis qui s'enfrichent. Elles sont souvent un signe d'enfrichement et d'une déprise d'un certain type d'activité, comme par exemple la culture ou bien le pâturage. Donc elles foisonnent à peu près partout dans la ville de Tanger. Donc vous voyez beaucoup dans des espaces comme ça on sent en transition, qui sont dans ces espaces où surgissent les jardins sur lesquels je travaille, les petits jardins pirates. Et en même temps, donc voilà, au pied des immeubles, et en même temps au bord de la mer, dans le matoral caractéristique du bord de mer là-bas. Et donc pourquoi plante de secours? C'est une plante qui est très connue là-bas, de façon, et c'est pas évident de s'en rendre compte, et je m'en suis rendu compte en suivant des pêcheurs, parce que donc mon approche, on va dire, en paysage, je préférais plutôt que paysagisme, m'a conduit à observer des pratiques qui étaient donc d'ordre extrêmement divers, notamment la pêche. Et les pêcheurs passent par des sentiers d'accès, de la falaise, donc tout est accessible par des falaises et des petits chemins comme ça au bord des falaises. Et en fait, lorsqu'on part comme ça dans une expédition de pêche, on emmène un peu de matériel, mais on prélève aussi beaucoup de choses dans le paysage alentour et dans la progression jusqu'au lieu de la pêche. Et parfois, on utilise même aussi le sable et certaines choses qu'on va trouver en moulinant des cailloux pour fabriquer des appâts, enfin bref. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se blesse, parce qu'avec les hameçons, tout ça, on se coupe les couteaux et tout. Et en fait, cette plante est une plante hémostatique et elle est vraiment utilisée par tout le monde comme ça. Et donc, dès que vous vous blessez ou que vous vous coupez, quelqu'un court dans un buisson, arrache un tsarhal, le presse, exprime le jus et le met sur la coupure, et c'est saisissant. Donc voilà, tout ça pour dire que ces pratiques sont extrêmement fortes, extrêmement imprégnées dans la vie des Tangérois, des urbains et aussi des Tangérois qui sont plus fraîchement urbains, c'est-à-dire qui sont issus d'un exode rural beaucoup plus récent. On va avoir des différences dans les jardins que je traduis entre ces deux différentes origines de la population, mais il n'empêche que ça pose la question du jardin comme un espace de transition, du jardin spontané en pleine terre comme un espace de transition ou un trait d'union entre des pratiques de l'espace extrêmement diversifiés et leur capacité d'existence et de survie dans un contexte urbain. Voilà la photo, une photo assez symbolique de la ville de Tanger, avec à la fois des paysages jbella extrêmement proches et puis des grands hôtels, des resorts qui se construisent en bas sur la baie de Tanger, et toute la baie de Tanger que vous pouvez voir derrière, avec une petite mise en défend de branches au premier plan. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.